Agro-j'écoute, ça commence maintenant.
L'agroécologie. On m'a souvent posé la question, je ne sais pas ce que c'est.
McDo est le symbole de ces multinationales qui veulent nous faire bouffer de la merde et qui veulent faire crever les paysans.
L'agroécologie, elle part d'un autre principe. On ne va pas tuer l'insecte ravageur, l'agent pathogène. On va en neutraliser les effets, on va en neutraliser les dégâts.
Agro j'écoute, l'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture.
Pesticides, c'est-à-dire fongicides, herbicides.
Il faut réapprendre, il faut oublier pour apprendre autre chose, parce que des fois, là, on se trompe.
Cide, ça veut dire que ça tue.
Agro j'écoute, une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano.
Les paysans ne sont pas les seuls dans le département de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire.
Tous les produits en cidre devraient être interdits.
En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'École d'ingénieurs de Purpan.
Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices et auditeurs de Campus FM. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de l'émission Agro j'écoute, l'émission qui parle d'agriculture. Je suis Enéa Labesco et je retrouve en ma compagnie trois autres amis étudiants à l'école d'ingénieurs de Purpan, Julie Barré,
bonjour,
Karine Carto,
bonjour,
et Johan Baraduc.
Bonjour.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui vous avez un sujet sur lequel vous voulez qu'on parle?
Alors moi, oui, depuis quelques temps, je suis un peu confronté à un dilemme. C'est par rapport à la consommation de viande. Donc partout autour de nous, on nous répète que ça a un gros impact sur le réchauffement climatique. Alors j'avoue, j'adore la viande et j'avoue que ça me fait un peu culpabiliser. Donc voilà, j'aimerais bien que ce soit le sujet de cette émission.
Eh bien, tu vas être ravie, Johan. Karine et Julie se sont spécialisées dans l'agroécologie et l'agriculture durable. Et je pense qu'elles se feront un plaisir de répondre à toutes nos questions.
C'est vrai que la consommation de viande et le réchauffement climatique, ça fait un peu l'actualité en ce moment.
Bah oui, apparemment, ce seraient les rots et les pets des vaches qui émettraient des gaz à effet de serre.
Pour débuter l'émission, je pense qu'il serait très intéressant de faire un petit tour sur tous les termes et les définitions afin que nos auditeurs et nous-mêmes sachions précisément de quoi nous parlons. Alors Karine, est-ce que tu pourrais commencer par nous parler de l'effet de serre ?
Oui, bien sûr. Déjà, il faut savoir que l'effet de serre, c'est un phénomène qui est naturel. Il va provoquer l'élévation de la température à la surface de la Terre. En fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'avec ou sans humain, c'est un phénomène qui existe. Et d'ailleurs, sans l'effet de serre, la Terre ne serait pas habitable. Les gaz à effet de serre, et notamment le CO2, la vapeur d'eau et le méthane, sont donc eux aussi présents de façon naturelle. Ils vont absorber les rayonnements infrarouges en provenance de la surface terrestre. Mais le problème, c'est que l'être humain, avec ses activités industrielles et agricoles toujours plus importantes, il va amplifier les émissions de ces gaz. Et ça, c'est ce qui va entraîner l'augmentation de la température à la surface de la Terre. Et c'est ça qu'on appelle le réchauffement climatique. Donc Julie, elle va nous dire ce qu'il se passe lorsque la planète se réchauffe. Et je peux vous dire que c'est pas joli joli.
Oui, parce que lorsque la planète se réchauffe, il y a de nombreuses conséquences sur la nature, comme l'élévation du niveau des océans, la baisse des niveaux des nappes phréatiques, la disparition de certaines espèces animales et végétales. Et les êtres humains sont eux aussi concernés, parce que l'élévation de la température terrestre, ça entraîne une réduction de la qualité et de la quantité d'eau potable, des migrations de populations, sans parler des impacts sur la santé humaine. Et tout ce réchauffement, c'est surtout dû aux activités humaines, par exemple les transports, le logement, mais aussi l'élevage bovin, c'est-à-dire l'élevage de vaches, qui produit des gaz. Et justement, on va parler du lien entre les vaches et l'émission de gaz à effet de serre. D'ailleurs, Johan, est-ce que tu sais de quel gaz à effet de serre on parle ?
Alors j'avoue que non, j'entends souvent parler du dioxyde de carbone, mais en ce qui concerne les vaches, je n'ai vraiment pas d'idée.
En fait, il s'agit du méthane. C'est un composé chimique de formule CH4. C'est un gaz qui a un fort pouvoir réchauffant et il contribue donc fortement à l'effet de serre. Pour faire simple, le méthane a un pouvoir de réchauffement 25 fois plus élevé que le CO2. Il est émis par tous les ruminants, notamment les vaches, lors du processus de fermentation. Et la fermentation, c'est tout simplement la dégradation des fibres par les sucs gastriques au sein d'un des estomacs de la vache. Cet estomac, ça s'appelle le rumen.
Donc si je suis ce que vous dites, plus il y a de vaches, plus il y a de méthane produit. Alors ça a vraiment un effet sur le réchauffement du climat.
Alors oui, c'est sûr, l'élevage bovin, ça impacte dans une certaine mesure le climat. D'ailleurs, on le considère souvent comme un problème face au changement climatique. En France, l'élevage bovin, pour avoir un ordre d'idée, qu'il soit destiné à la production de viande ou de lait, c'est 10% des émissions de gaz à effet de serre. Mais il faut bien savoir que l'élevage, c'est pas le seul responsable. Et oui, parce que je pense vraiment que l'élevage, c'est avant tout des élevages. Et pour moi, il y a certains types d'élevages bovins qui peuvent atténuer le changement climatique. Et là, je parie que vous mourrez d'envie de savoir lesquels. Eh bien, moi, je pense à l'élevage bovin à l'herbe ou l'élevage bovin extensif, qui vont permettre de stocker une très grande partie des émissions de gaz à effet de serre. Alors, il y a trois façons qui permettent cela. Avec Julie, on va vous expliquer lesquelles. Mais je pense qu'avant toute chose, on va faire un petit tour des définitions pour être sûr que tout le monde sait de quoi on parle.
Ah, c'est une super idée cela, Karine. Le terme extensif n'est pas toujours très parlant. Alors Julie, est-ce que tu pourrais nous en parler ?
Oui, là on va parler d'élevage extensif. Parce que l'élevage extensif, c'est quand on va avoir une faible densité d'animaux par hectare. En gros, on fait pâturer moins de vaches sur une surface donnée. Dans ce type d'élevage, les vaches ont un accès à des surfaces herbagées. Donc en général, ce genre de ferme est de petite taille, voire moyenne. On essaie de choisir des vaches avec des races un peu plus rustiques, comme des Montbéliards pour l'élevage laitier ou des Aubraques pour la viande. Et on cherche à utiliser peu, voire pas d'intrants. Alors quand je parle d'intrants, je sous-entends engrais minéraux, pesticides, etc. Et au contraire, dans un élevage bovin intensif, l'objectif, c'est le rendement maximal, donc l'utilisation bien plus importante d'intrants et l'augmentation de la densité de vaches par hectare. Ces vaches, elles auront alors un accès beaucoup plus limité à l'herbe parce qu'elles sont dans un espace réduit ou confiné. Et le fait d'avoir davantage d'intrants par hectare, ça va entraîner pas mal de problèmes environnementaux. C'est le cas en Bretagne, par exemple. Vous connaissez la Bretagne, c'est une région où il y a beaucoup d'élevage, mais il y a aussi beaucoup d'élevage intensif. Et là-bas, alors vous avez dû en entendre parler, on a une prolifération assez importante d'algues toxiques sur les côtes. Et ça, c'est à cause de l'utilisation massive d'intrants, surtout d'engrais azotés. Et vous avez parlé d'élevage à l'herbe. Est-ce que c'est la même chose ? Pas tout à fait. Alors quand on parle d'élevage bovin à l'herbe, qu'il soit pour la production de lait ou de viande, on parle d'un élevage qui repose presque en totalité sur une alimentation à l'herbe. Ce sont des élevages dont l'alimentation sera composée presque en majorité de landes, d'estives, de prairies permanentes et de prairies temporaires. Tiens, parlant de prairies, je vais juste faire un petit point. On a les prairies permanentes, qui sont celles qui sont implantées depuis 6 ans ou sont totalement naturelles. Et les prairies temporaires, elles sont implantées pour une durée maximale de 6 ans. Ce type d'élevage, on peut le retrouver dans des régions spécifiques du Piémont ou des zones montagneuses par exemple. Et c'est donc dans ce genre de zone qu'on va pouvoir stocker beaucoup de carbone, puisqu'on aura beaucoup de systèmes à l'herbe.
Alors, si j'ai bien compris, on a différents systèmes d'élevage qui existent, donc à l'herbe, extensif et intensif, et tous ne vont pas avoir le même impact sur le climat.
Oui, c'est exactement ça, Johan. Alors, l'élevage bovin à l'herbe, par exemple, il va avoir un impact plus réduit sur le climat, puisqu'il y aura une part importante de prairies. On estime, par ailleurs, que l'élevage extensif émet 20% de moins de gaz à effet de serre que l'élevage intensif. Et ça, c'est notamment dû grâce aux puits de carbone, c'est-à-dire les prairies. En fait, ce sont elles qui vont stocker les gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère. Donc, comme l'a dit Julie précédemment, dans un élevage bovin à l'herbe, la ration des vaches, c'est-à-dire ce qu'elles vont consommer, s'est constituée presque à 80% d'herbe. Et cette herbe, comme tout autre végétal, va être impliquée dans un phénomène dont vous avez tous très certainement entendu parler. C'est la photosynthèse. En fait, les plantes vont capter le CO2 présent dans l'air et puiser l'eau pour restituer du dioxygène et produire des glucides. Les plantes des prairies vont réellement transformer le carbone de l'atmosphère en biomasse. Du coup, chaque année, on a près de 800 kg de carbone qui sont stockés par hectare de prairies pâturées par les ruminants, et notamment les vaches. En fait, ça signifie que sur une année, on va avoir un hectare de prairies qui permettra de stocker l'équivalent de 2 semaines d'émissions de CO2 d'un Français. Donc, je pense qu'on peut dire que le stockage des prairies, il est non négligeable, puisqu'on dit qu'un tiers des émissions de l'élevage ruminant sont compensées par les prairies d'élevage.
Donc, pour être sûr de ne pas avoir perdu nos auditeurs, on peut dire en une phrase que l'élevage bovin à l'herbe peut stocker beaucoup de carbone via les pâturages. C'est bien ça ?
Oui, c'est exactement ça, Enéa. En fait, ce n'est pas du tout comparable avec les systèmes d'élevage en bâtiment, dont la ration alimentaire est essentiellement composée de grains et de maïs sans silage. Je pense qu'il ne faut vraiment pas mettre tous les élevages dans le même panier. Et puis, vous savez, ce n'est pas tout. Il y a un autre bénéfice de l'élevage qui, lui aussi, est très important. C'est le fait qu'on ait un moindre recours au labour. Et le labour, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est tout simplement une façon de travailler la terre. En fait, on va venir l'ouvrir en profondeur et la retourner. Ça va permettre de la rendre plus meuble et d'enfouir tout ce qui se trouve en surface, notamment des restes de production végétale, par exemple. En général, le labour, c'est utilisé pour préparer le semis. Mais le problème, c'est que quand on retourne la terre, on libère énormément de carbone. D'ailleurs, on dit qu'un retournement de prairie d'un hectare peut occasionner la libération de 1000 kg, soit une tonne de carbone. Est-ce que vous vous rendez compte ? C'est vraiment énorme, c'est comme si on faisait un aller-retour Paris-New York en avion. Et donc l'avantage avec des prairies pâturées par des vaches, c'est qu'on a affaire à des prairies dites permanentes, c'est-à-dire qui restent plusieurs années sans être travaillées.
Donc les prairies sont vraiment intéressantes dans le stockage de carbone. Mais les cultures, elles stockent du carbone, Noël, aussi. Alors je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas remplacer les prairies à vocation animale par des cultures destinées à alimenter directement les hommes. On gagnerait vachement plus de place.
Ouais, je comprends ton raisonnement, Johan. Mais beaucoup font le même amalgame. Ils pensent qu'en supprimant l'élevage, toutes les surfaces seraient directement utilisées pour les hommes et donc pour nourrir toute la population mondiale. D'ailleurs, Karim, rappelle-moi. Quelle part de la surface agricole est destinée à l'élevage ?
Alors, je pense que c'est presque 70% selon la FAO, et c'est vraiment beaucoup. Mais la vraie question à se poser, c'est quelle part de cette surface agricole est capable de produire efficacement et directement les protéines végétales ?
En réalité, ce sont 2/3 de la surface agricole qui ne sont pas exploitables pour des cultures. Tiens, on va prendre l'exemple du Massif central en France. On ne trouve pratiquement que des pâturages sur ces plateaux. C'est parce que c'est le climat qui rend les terres quasiment impossibles à cultiver. Je vais vous donner un autre exemple un peu plus international. Par exemple, l'outback en région au centre de l'Australie. Vous savez, l'Australie très rouge où il n'y a personne. Ben, ces terres, elles sont tellement arides que les vaches sont les seules à pouvoir en tirer profit. C'est totalement impossible d'y cultiver quoi que ce soit. Il faut donc utiliser le bon terme et dire que l'élevage utilise 30% de la surface cultivable et non pas la surface agricole. Et on est bien loin des 70% annoncés au départ.
Ah oui, d'accord, donc il ne faut pas s'arrêter au premier chiffre qu'on entend. C'est vrai que dans beaucoup d'endroits, les pâturages sont présents et nécessaires car c'est la seule façon d'entretenir le territoire.
Oui, c'est exactement ça, Johan. C'est d'ailleurs le cas en montagne, où les milieux se referment de plus en plus depuis les 30 dernières années. Avant, il y avait beaucoup plus de troupeaux en montagne. Et aujourd'hui, avec la diminution du pâturage, les prairies naturelles laissent place à des landes qui sont constituées majoritairement de bruyères et de rhododendrons. Alors ça, c'est des sortes de buissons qui sont impossibles à pâturer. Les éleveurs sont donc contraints à avoir recours aux écobuages. Et les écobuages, c'est le fait de brûler ces landes pour ouvrir les milieux. Donc quand je parle d'ouvrir les milieux, je sous-entends éliminer cette végétation qui empiète sur les prairies. Et il faut savoir que ces sortes de grands nettoyages, ils sont nécessaires, et pas seulement pour les élevages, mais aussi pour une grande partie de la biodiversité présente dans les milieux ouverts. Donc ces landes, qui vont par conséquent être brûlées, faute d'animaux qui pâturent en montagne, elles vont libérer une quantité considérable de carbone dans l'atmosphère. Et ça, c'est totalement anti-écologique, mais c'est pourtant nécessaire pour entretenir nos paysages.
Oui, je vois où tu veux en venir. Si on diminue les troupeaux, les milieux montagnards se referment et on a de plus en plus besoin des écobuages.
Oui, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, si les milieux montagnards ne sont pas entretenus, c'est la forêt qui regagne du terrain petit à petit. Et là, on peut dire qu'il y a une perte énorme de la biodiversité animale et végétale. Par exemple, certains oiseaux qui nichent en plaine ne vont plus venir vivre dans cette nouvelle forêt. Donc, vraiment, le pastoralisme doit être maintenu, voire même soutenu.
J'aimerais rebondir sur ce que Julie et Karine viennent de dire. Je me dis que dans l'hypothèse où l'élevage vient à disparaître, il n'y aura pas uniquement la fermeture des paysages comme conséquence. Cela déséquilibrera toute une activité socio-économique. Pour vous donner un ordre d'idée, j'avais pu faire des recherches au préalable pour un travail. 450 000 personnes travaillent dans l'élevage en France. Qu'il s'agisse de la production de vaches, de cochons, de brebis, de lapins, de poules. À cela devront se rajouter les bouchers et les acteurs de la transformation de la viande, par exemple, donc la salaison, la charcuterie, et j'en passe. Beaucoup de personnes perdront donc leurs emplois. Si on supprime l'élevage, les hommes de piémont de montagne risqueraient d'être désertés, selon moi, car ils représentent une part importante de l'emploi et de l'économie locale. D'autres régions, comme la Bretagne et le Sud-Ouest, par exemple, devront réfléchir à une nouvelle économie, n'est-ce pas, Karine ?
Ben oui, je suis complètement d'accord avec toi, Enéa. En fait, on parle souvent du climat, des conséquences agronomiques, mais pas souvent de l'aspect social et économique de l'élevage. Et pourtant, c'est tellement important. Alors maintenant, tu te demandais aussi si les cultures stockaient autant de carbone que les prairies, Johan. Eh bien, il faut savoir que les grandes cultures, comme les céréales et les oléagineux, donc le colza, le tournesol que vous connaissez tous, ont une capacité de stockage qui est bien plus limitée. Et tout ça, c'est dû au fait qu'on va retourner le sol pour préparer le sol aux cultures. Et ça, ça va relâcher énormément de carbone. L'autre point, c'est qu'on va récolter ces cultures et donc on va exporter de la biomasse. Et donc, ça fait moins de biomasse sur le sol pour capter du carbone. Pour faire simple, les céréales et les oléagineux stockent presque deux fois moins de carbone que les prairies.
Oui, et si je peux me permettre, j'aimerais ajouter un petit élément de réponse. Mais pour cela, il faut que j'introduise un nouveau terme un peu barbare, l'albédo. Alors l'albédo, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la capacité d'une surface à réfléchir plus ou moins le rayonnement solaire vers l'espace. Tiens, titre d'exemple. La neige ou la glace ont des effets albédo maxima. C'est pour ça que quand on va en montagne, on prend très facilement un coup de soleil au visage. Et pour les prairies, c'est pareil. L'albédo est bien plus important que pour les cultures, voire même que les forêts d'ailleurs. Cela veut tout simplement dire que comparé aux cultures, les prairies vont beaucoup plus réfléchir les rayonnements solaires qu'elles vont renvoyer vers l'espace. Du coup, il a été affirmé que les prairies en élevage sont un bon moyen pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre.
C'est tout à fait ça. Et moi, j'aimerais terminer sur un dernier argument. Après, je vous laisse tranquille, c'est promis. J'aimerais vous parler des apports d'azote, qui est un composant fondamental sur la planète Terre. En fait, tous les êtres vivants ont besoin d'azote. Vous le trouvez dans l'ADN, et l'ADN, c'est ce qui fait qu'on existe. Il constitue les acides aminés qui forment les protéines. Les plantes, elles aussi, elles en ont besoin, puisque l'azote constitue la chlorophylle, ce qui permet aux plantes de faire la photosynthèse. En fait, cet azote, on en trouve partout autour de nous. L'air est constitué en très grande majorité d'azote. Allez-y, respirez un coup. Ah, et bien voilà, 78% de l'air inspiré, c'est de l'azote. Mais même s'il est indispensable, ça n'empêche pas qu'il ne soit pas assimilable par les humains, les animaux et certaines plantes. En fait, ça va être une catégorie spéciale de plantes, les légumineuses, c'est-à-dire les pois chiches, les haricots, les fèves que vous connaissez tous, qui vont permettre de transformer l'azote de l'air N2 en azote assimilable par les plantes. Mais il y a une autre façon d'apporter de l'azote à des plantes qui en ont besoin. On peut fabriquer des engrais azotés. Mais pour les fabriquer, on doit faire tourner des usines qui vont utiliser des gaz naturels, vont relâcher du CO2 et du protoxyde d'azote, qui est un puissant gaz à effet de serre. Donc en fait, la fabrication d'engrais, c'est un processus assez énergivore, qui est assez néfaste pour le climat. L'avantage avec l'élevage, c'est qu'on réduit l'apport d'azote qui vient de l'extérieur. Donc, on diminue l'impact de la fabrication d'engrais, qui est très négatif. En plus, il faut savoir que l'azote minéral, celui qui vient d'une synthèse chimique, représente 50 à 70% des émissions de gaz à effet de serre qui sont induites par les cultures. Le reste, c'est l'azote organique qui vient de la consommation de carburant lié au travail du sol et à l'utilisation d'engrais.
Oui, c'est sûr. Et puis, il ne faut pas oublier que lorsqu'on a des vaches sur les surfaces pâturées, il va y avoir un retour au sol des déjections animales. Donc, on a une sorte de boucle de nutriments. Avec de l'élevage, on maintient les nutriments dans un fonctionnement cyclique et on n'a pas de perte d'azote ni de matière organique hors du système.
Merci Julie et Karine pour toutes ces informations. Je pense que nos auditeurs ont maintenant une idée un peu plus précise des liens entre l'élevage et le climat. Je remercie nos intervenants pour nous avoir un peu plus éclairés sur la contribution, certes réelle, de l'élevage bovin au réchauffement du climat. Merci de nous avoir également présenté les aspects positifs de l'élevage face au climat, à savoir le stockage du carbone par les prairies, la réflexion des rayonnements solaires, le maintien de la biodiversité, la fertilisation des sols, etc. Et oui, les petites vaches qui broutent paisiblement dans les champs ne sont pas responsables de tous les maux du climat. On se retrouve en deuxième partie après une belle interlude musicale pour parler des leviers dont disposent les éleveurs pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. A tout de suite ! c'était Everybody Needs Somebody to Love des Blues Brothers. Nous sommes toujours sur Agro J'écoute sur Campus FM. Autour de la table, nous retrouvons Julie, Johan et Karine, trois autres amis étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan. Ils ont pu nous éclairer sur l'impact négatif mais aussi positif de l'élevage sur le climat dans la première partie de ce podcast. Mais la quantité de méthane émise par les élevages n'est pas fixée et nous allons voir dès à présent comment les éleveurs peuvent diminuer ces émissions. Karine, Julie, vous pouvez nous expliquer un peu ?
Oui, bien sûr. Alors déjà, pour commencer, les élevages ils disposent de nombreux moyens pour réduire ces émissions. Et surtout les élevages extensifs ou les élevages à l'herbe mentionnés précédemment. D'ailleurs, c'est un enjeu qui est très important aujourd'hui en agriculture et de nombreux élevages y prennent part. Ce qu'il faut savoir, c'est que de nombreux exploitants se tournent vers l'augmentation de la productivité du troupeau, c'est-à-dire de produire tout autant mais avec moins de vaches. Donc en fait, une seule vache va produire plus de méthane, c'est un fait, mais comme il y a moins de vaches dans le troupeau, figure-toi qu'on a beaucoup moins de méthane qui sera produit au final.
Comme l'a dit Karine, la quantité d'aliments ingérés par la vache va induire sur la quantité de méthane émise. Donc ça, c'est logique. Mais est-ce que vous saviez que la nature des aliments a aussi un effet sur l'émission de ce gaz ? Eh oui, la digestion de certains types d'aliments produit moins de méthane que la digestion d'autres aliments. Par exemple, une vache qui consomme et donc digère du maïs va produire moins de méthane au final que celle qui va consommer du foin ou de l'herbe. Le maïs peut donc être utilisé en complément dans la ration pour aider à la digestion de l'animal. Attention, hein, la vache ne doit pas non plus avoir une alimentation faite seulement à base de maïs. Parce que les cultures de maïs demandent généralement beaucoup d'eau, et ce serait contre-productif niveau écologie. Mais un peu de maïs dans la ration, ça reste une piste à étudier.
Ah oui, en effet, l'herbe et le foin sont des fourrages, ils contiennent donc beaucoup de fibres et ils sont donc plus loin à digérer, c'est ça ?
Et oui, c'est exactement ça, Johan. Et encore plus fou, est-ce que vous saviez que c'est une enzyme présente dans le rumen, l'estomac dans lequel se produit la fermentation, qui est responsable de la production de méthane ? Et oui, en ce moment, il y a des recherches qui sont menées sur un nouveau type d'alimentation, à base d'algues, qui inhiberait cette enzyme, c'est-à-dire qui l'empêcherait de fonctionner correctement. D'ailleurs, à ce sujet, une étude a été réalisée en 2018 au Québec qui a montré qu'un régime à base d'algues pourrait réduire de moitié la production de méthane. Mais on a un petit problème, c'est que les vaches ne semblent pas beaucoup aimer les algues.
Oui, parce que c'est salé. Non, sinon, il est possible d'améliorer la génétique. Parce que la génétique de l'animal, elle influe sur le type et sur la quantité des bactéries productrices de méthane. Sachant cela, les scientifiques peuvent sélectionner et reproduire des vaches possédant moins de bactéries et donc émettant moins de méthane.
Tout à fait. Aussi, j'ai expliqué plus tôt, si vous en souvenez, que les effluents d'élevage permettent d'enrichir le sol en matière organique et apportent de l'azote. Mais il faut prendre de nombreuses précautions pour éviter la lixiviation de l'azote dans le sol. Autrement dit, éviter que l'azote ne parte dans les nappes phréatiques et pollue énormément. Et ça, c'est grâce au principe de méthanisation qui va permettre de mieux gérer ces effluents et de créer des biogaz.
Alors Karine, je ne suis pas sûre que nos auditeurs ils sachent exactement ce qu'est la méthanisation.
Oui, c'est vrai, tu as raison. Alors en fait, la méthanisation, c'est un procédé naturel qui va conduire à la dégradation de la matière organique grâce à l'action de micro-organismes dans un milieu qui est chauffé et sans oxygène. Ces bactéries, en fait, on les retrouve à l'état naturel dans les déjections animales. Le procédé va permettre de créer des gaz naturels qui pourront être valorisés de différentes manières, par exemple pour produire de l'électricité. Voilà, donc en fait, on incrimine beaucoup le méthane depuis le début, mais je pense qu'il peut aussi devenir notre allié.
Ça, c'est une super technique, puisque la méthanisation, elle va fortement contribuer à améliorer le bilan des émissions de gaz à effet de serre des exploits. En plus, c'est une bonne manière de valoriser localement les matières organiques agricoles. C'est une forme d'économie circulaire au final, puisque ça va développer et dynamiser les territoires ruraux. En trois mots plutôt, je dirais que c'est utile, local et écolo.
Alors voilà, je pense que vraiment avec tous ces éléments, on peut quand même dire que l'élevage a du bon. Et puis, vous savez, les vaches, elles ont toujours été présentes dans les champs. Et avant, on ne parlait même pas de réchauffement climatique. Donc, à mon avis, le problème, il est ailleurs. Et puis, au-delà du climat, l'élevage bovin, c'est de l'emploi, de l'ancrage territorial, la préservation d'un savoir-faire, les valeurs du terroir et la sauvegarde de nos paysages ruraux.
Oui, j'avais déjà dans l'idée de consommer plus local, de me tourner vers des produits alimentaires issus de l'élevage extensif. Je pense qu'aujourd'hui, vous m'avez encore plus convaincu.
Je pense aussi que cela laisse une belle perspective de réflexion pour nos auditeurs quant à leur choix de consommation. Au travers de vos arguments, vous avez trouvé de quoi réconcilier éleveurs et consommateurs. L'idée, c'est peut-être finalement de manger moins de viande, mais d'une meilleure qualité et issue d'un élevage éco-responsable et bénéfique pour le climat. C'est sur ces belles paroles que nous arrivons au terme de notre émission. Merci à Radio Campus FM de Toulouse de nous avoir permis de discuter avec vous à propos de l'élevage. Et il s'agissait d'un sujet qui nous tenait vraiment à cœur. Nous espérons avoir été clairs. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à regarder dans la barre d'informations où nous listerons un peu plus de la bibliographie que nous avons utilisée. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'était avec plaisir que nous avons enregistré ce podcast. Nous vous conseillons d'écouter le prochain podcast, Le commerce équitable Nord-Nord, qui est un sujet également très intéressant. Nous tenions à remercier aussi les personnes qui ont permis à ce projet de voir le jour, telles que l'École d'ingénieurs de Purpan, l'Université fédérale de Toulouse et la région Occitanie. Nous vous souhaitons une excellente journée et à très bientôt sur Campus FM.
C'était Agro J'écoute, une émission préparée par Sophie Yvon et Simon Giuliano. Un podcast réalisé par les étudiants de l'École d'ingénieurs de Purpan, en partenariat avec Campus FM et l'Université fédérale de Toulouse.